Jean-Baptiste Poquelin est né il y a 400 ans, connu sous le nom de Molière. Il a régalé ses contemporains avec des pièces toujours actuelles, mais il a aussi été témoin de la table du Roi Soleil, le Vénard. Alors Molière a nourri son œuvre de références culinaires. Eh bien, parlons-en avec nos invités. Valérie Duclos. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Bonjour. Vous venez de publier à la table de Molière aux éditions des Falaises. Vous êtes auteur et journaliste culinaire. Et Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie Française. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
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 Bonjour à tous.
Merci d'être là. Alors, vous jouez l'avare depuis la semaine dernière à la Comédie Française. Vous êtes en tournée avec une autre pièce, on en parlera tout à l'heure aussi. Et vous allez nous interpréter, pour nos auditeurs, des scènes, des pièces de Molière dans lesquelles il est un petit peu question de ripaille parfois.
Ah ouais, hein. D'accord, comme ça, à chaud.
À chaud.
D'accord.
Ça ne vous fait pas peur, vous le sociétaire. Hein. Tiens, Valérie Duclos, quelle pièce de Molière parle le plus de cuisine, selon vous ?
L'avare, où il y a pas mal d'échanges parce qu'il cherche à organiser un grand banquet avec beaucoup d'économies, et puis aussi le bourgeois gentilhomme, les deux.
C'est vrai. Mmh. Alors vous avez remarqué dans votre livre « À la table de Molière » qu'il y a des extraits de pièces où on parle cuisine et ingrédients. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué justement dans ces pièces-là ?
L'évocation des banquets où on imagine bien les grandes tables avec plein de mets. Parce que vraiment, à l'époque, il y avait la cuisine des paysans et puis la cuisine du Roi Soleil.
Mmh. Il y avait un sens de l'économie aussi. On parle de l'avare, mais il était question de ça, de faire aussi des économies pour acheter les ingrédients.
Maintenant, on revient. Molière reste extrêmement contemporain parce qu'il souhaite, par ses écrits et surtout dans l'avare, bambocher sans trop dépenser. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait par le zéro déchet, etc.
Mais oui, la bamboche, c'est pas terminé, hein, Jérôme Pouly, vous êtes d'accord ?
Je suis complètement d'accord. D'autant qu'il dit qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Ah donc oui, ça, exactement. Déjà, eh ben oui, ça vient de lui, on va en reparler justement. Vous êtes venu avec un texte rare et appétissant de l'avare qu'on avait oublié. Vous pouvez nous faire un petit extrait ?
Ouais, d'accord. Hein, okay.
Jérôme Pouly, pour vous, pour les auditeurs d'Europe 1.
Donc effectivement, je replace le contexte.
Oui, oui.
C'est dans l'Avare, où effectivement, Harpagon demande à son cocher cuisinier, Maître Jacques, de préparer un repas. Évidemment, l'autre lui demande de l'argent, donc de l'argent, toujours de l'argent, parler d'argent, etc. Et donc, effectivement, seul dans la Pléiade, effectivement, il y a ce que Maître Jacques va proposer comme repas. Alors il commence comme ça, en disant « Combien serez-vous déjà de gens à table ?» Ben, nous serons 8 ou 10, mais il ne faut prendre que 8, hein, parce que comme ça, il y a bien à manger pour 10.
Ouais.
Et ensuite, il enchaîne donc ce fameux Maître Jacques en disant « Il faudra 4 grands potages et 5 assiettes d'entrée. » Alors potage bisque, potage de perdrix au chou vert, potage de santé, potage de canard au navet, entrée fricassée de poulet, tourte de pigeonneaux, riz de veau, boudin blanc et morille. Les champignons dont on parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, Harpagon, que diable, voilà, pour traiter toute une ville entière. Et l'autre continue, raw. Alors, le raw, en l'occurrence, ce n'est pas...
Non, c'est le rôti.
Exactement, tout à fait. Et donc, qui est servi généralement tout de suite après potage et entrée. Donc, raw, dans un grandissime bassin. Donc là, je rejoins effectivement Valérie sur l'idée de la table pentagruélique
et généreuse.
Donc, en pyramide, une grande longe de veau de rivière, 3 faisans, 3 poulards de grâce, 12 pigeons de volière, 12 poulets de grain, 6 lapins de garenne, 2 douzaines de cailles et 3 douzaines d'ortolans. Entremets, et alors là il arrête tout. Harpagon, c'est pas possible, quoi. Il est sur le point de mourir.
Ça l'inquiète, bah oui, il va mourir. Là.
Ah bah ouais, là, c'est
déjà,
c'est
il mangera pas parce qu'il va peut-être baisser, même à 7 plutôt que 8 s'il pouvait.
Ouais,
c'est
ouais.
Ça, non, mais c'est vrai que l'avarice est terrible. C'est une pièce qui vous avait marqué, Yves Courdebord, je crois, à l'avare.
Moi, j'ai fait des études de cuisine très tôt, donc j'ai deux autres études, je les ai un peu zappées. Et quand on m'a forcé à lire ça à l'époque, j'étais pas très intéressé pour vous dire la vérité, mais j'ai eu la chance de voir le film avec Louis de Funès, et là ça a été une révélation.
C'est vrai qu'il s'est régalé.
Du coup, je me suis mis à aimer Molière, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était des paradoxes, parce que bon, quand vous dites qu'ils étaient en avance, je sais pas s'ils étaient en avance quand j'entends la quantité de protéines animales qui est servie.
Qu'est-ce que c'était, le veau de rivière ?
Veau de rivière, je pense que c'était, ça devait ressembler un peu à nos veaux de lait de maintenant.
D'accord,
c'est-à-dire que
c'était
des veaux qui ne devaient pas, pas brouter, quoi, pas toucher, simplement boire le lait de la mer sans aller prendre d'autres aliments.
Alors je crois que c'est les côtes qui sont très, très larges et qui étaient amenées à être rôties et braisées.
C'est ça. Ah,
d'où le rôt.
D'où l'euro. Aussi, là, on revient au euro toujours. Charlotte.
Et Valérie, est-ce que vous saviez si Molière cuisinait lui-même ou ce qu'il mangeait? Parce qu'à la cour du roi, à l'époque, il y avait quand même la quintinie. Je crois qu'il a poussé beaucoup dans son potager la culture de certains fruits, certains légumes.
Bien sûr.
De temps en temps, il n'y avait pas du tout de saison. Il y avait de la rhubarbe à n'importe quel moment de l'année. Et vous savez si, du coup, il y avait un peu n'importe quoi sur les tables ou qu'est-ce qu'il mangeait?
Alors, Molière est bien né, donc il a déjà eu de la chance parce qu'en étant bien né, il avait, par sa famille, les moyens de bien manger. Mais ce qui est intéressant dans son œuvre et par là même dans sa vie, c'est qu'il avait un regard sur le milieu paysan qui mangeait à même la gamelle, autour d'une grande table avec des bancs. Et à contrario, il était un des rares à être invité à la table de Louis XIV, où là, on avait des fauteuils pour marquer l'individualité. Et c'est au XVIIe qu'on a eu la chance de découvrir tous les mets, les ingrédients tels que le café, le chocolat, les fruits exotiques, etc.
Mais c'est vrai que, pardon, à défaut des auteurs du XIXe, comme les Balzac, les Hugo et tout ça, où on a un nombre d'écrits absolument hallucinants de tout ce qu'ils pouvaient manger et cuisiner, là, Molière, en fait, on est assez pauvre par rapport à ça. On a uniquement que ce qu'il a pu dire et écrire dans ses pièces, mais ce que lui-même a pu effectivement manger, finalement, on ne sait pas. Quoi.
Ouais. Ah, encore un petit extrait de l'avare, tiens, Jérôme Pouli.
C'est par rapport à l'exotisme des mets, des fruits.
Aux fruits exotiques, effectivement.
Ça, c'est super intéressant.
Parce qu'on parlait de la quintinie, le jardinier du roi qui faisait pousser de tout le temps, effectivement. Oui. Louis XIV voulait des asperges en permanence, par exemple. Il avait installé un système de fumier qui permettait de réchauffer la terre. Et pareil, les fruits exotiques sont arrivés à la table de Louis XIV.
Les fruits exotiques, voilà. Et il y a son fils, à un moment donné,
Et dans la vague, il en est question.
Voilà, tout à fait. Il y a son fils qui dit à son père... pour accueillir effectivement cette fameuse Marianne dont ils sont tous les deux épris, il lui dit « Mais j'ai pourvu mon père et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citron doux et de confiture. » Alors, confitures qui ne sont pas nos confitures actuelles,
oui, les mêmes,
mais des espèces de pâtes de fruits ou...
Fruits confits.
Voilà, exactement, cherchez le mot, que j'ai envoyé quérir de votre part. En plus, il lui met ça sur sa note, quoi.
Il va s'étrangler encore une fois.
C'est clair.
Mais c'est vrai que c'est amusant de regarder par le biais de la table et de la gastronomie ce que veut dire l'époque aussi. Et à l'époque, justement, à la cour du roi, quand Molière montait des spectacles, on mangeait pendant le spectacle pendant l'entracte aussi, Charlotte.
Oui. Oui, la scène est simple, c'était tout éclairé à la bougie déjà, donc c'était rare étaient les gens qui étaient assis, c'était debout, et puis ça durait pas une heure et demie un spectacle, ça durait peut-être parfois toute une journée, donc les gens mangeaient durant les représentations à la cour du roi, et puis parfois c'était du lourd, c'était des coquillages, des huîtres,
du
il y avait des pillons, du poulet, je crois qu'on a retrouvé dans les fouilles, on a retrouvé des choses comme ça.
Mais bon, il paraît que Louis XIV... À sa mort, on a dû faire une espèce d'autopsie. On s'est rendu compte qu'il avait les entrailles deux fois plus longues que tout le monde.
C'est vrai.
Donc ça doit expliquer aussi le fait qu'il mangeait beaucoup.
Tiens, à propos de Louis XIV, c'est la saison des petits pois. Il avait un trou dans la cloison nasale et quand il mangeait des petits pois, parce qu'il adorait les petits pois, il ressortait des petits pois par le nez. Et quand on déjeunait ou dînait face à Louis XIV, il y avait une farandole de petits pois.
L'ancêtre
c'est pas une blague, non. C'est vrai, non. C'est pas une blague.
C'était l'ancêtre de la sarbacane. S'il y en a un qui l'a.
Exact. Vous avez raison, Jérôme Pouli, c'est la sarbacane nasale, exactement.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus à la table de Molière, si vous nous retrouvez en compagnie de l'auteur et journaliste culinaire Valérie Duclos, qui a sorti un livre qui s'appelle « À la table de Molière » et le comédien Jérôme Pouli de la Comédie française. Alors Valérie, tiens, dans les pièces de Molière, quand il est question de cuisine, il est aussi question de médecine.
Absolument. En fait, médecin malgré lui, comme il n'est pas vraiment médecin, pour le coup, il imagine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais précédemment, quand on parle d'alicament, c'est chercher des ingrédients dans la cuisine pour essayer de soigner les maux.
C'est ça,
du
les
moment.
Alicaments, ce sont les ingrédients auxquels on prête des vertus thérapeutiques et qui nous font du bien, oui.
Et à l'époque, on découvre le café au XVIIe, et le café, entre autres, est un ingrédient pour soigner plein de maux. De l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui on le fait encore, mais oui, en effet, on se sert d'ingrédients de la cuisine pour essayer de soigner.
Alors c'est souvent tourné en dérision hein, chez Molière, la médecine, on sait qu'il n'aimait pas les médecins, il en avait peur, il avait une opinion bien tranchée sur les médecins, Jérôme Pouly. Vous pensez bien qu'on a la chance de vous avoir au studio Coluche aujourd'hui à la table des bons vivants, donc on va vous demander de nous faire un petit extrait, tiens, s'il vous plaît Jérôme, du médecin malgré lui, où il est question de ce genre d'opinion.
Tout à fait, avec Toinette qui se fait en fait passer pour un faux médecin, c'est évidemment, ça. Et donc il va démonter un petit peu tout ce que les médecins ont on peut prescrire à Argan jusqu'à maintenant. Toinette pose la question à Argan en lui disant « Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ?» Alors, Argan répond « Il m'ordonne du potage, ignorant. De la volaille, ignorant. Du veau, ignorant. Des bouillons, ignorant. Des œufs frais, ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Alors, ignorantus, ignoranta, ignorantum, il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gros et du riz et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Voilà.
Conglutiner, c'est vrai qu'on ne le dit plus beaucoup, ça. Hein.
Non, c'est non, vrai. C'est pour ça que j'ai du mal à
c'est
le...
Vrai, c'est ça, c'est bon, on peut fourcher sur conglutiner.
Elle a une sacrée recommandation, Toinette.
Oui, ouais, mais je pense qu'elle n'a pas tort. Alors, ceci dit, c'est marrant parce que Argan, Harpagon, dit lui-même la même chose à un moment donné à Maître Jacques, en lui disant « Mais non, il faut des pâtés bien garnis de marrons, mais là, c'est plus pour l'idée de... On mange lourd et donc peu.
Et on est calé. Alors, c'est justement, vous allez me faire ma transition, parce que c'est vrai que Molière, Valéry Duclos, est un partisan de la modération en cuisine. À travers ce qu'on vient d'entendre, il fait un petit peu aussi l'éloge de la frugalité.
La frugalité, mais l'extrait qui vient d'être lu est intéressant parce que tout ce qui est évoqué fait partie de la table paysanne, parce que ces gens-là travaillent la terre et qu'ils sont en plein air, contrairement aux autres qui ne font pas grand-chose, à la cour du roi ou ailleurs, et donc qui n'ont pas besoin de manger les mêmes quantités et les mêmes produits. Vous parliez tout à l'heure de petits pois, d'asperges, ce sont des mets raffinés de l'époque. Et encore une fois, Molière s'en amuse entre ces deux extrêmes de la société.
Et oui, puis on vient du Moyen-Âge où tout ce qui poussait sous terre était pour les pauvres, pour les paysans, pour le peuple. Et tout ce qui était le plus proche des voies célestes et qui poussait en haut des arbres et des arbustes était pour la noblesse.
Absolument.
Jérôme Pouly, vous disiez il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Enfin, c'est pas vous,
non.
C'était justement Molière.
Enfin, d'ailleurs, c'est pas Molière. Molière, lui, Socrate.
Cet éloge de la frugalité, de qu'il fallait bien manger, mais avec modération.
Et exactement.
C'est dans l'Avare qu'on retrouve cette phrase, hein, justement.
Oui, tout à fait. Ouais, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Bon. Et on n'est pas loin d'Épicure. Vous parliez d'Épicure, Charlotte, mais c'est vrai qu'on rejoint.
C'est ça.
On rejoint ces.
Oui, on a des fausses croyances sur Épicure. On est épicurien quand on aime manger, mais Épicure, c'était plutôt avec frugalité, oui.
Alors Jérôme Pouly, tiens,
oui.
Molière
au
s'amuse,
hasard.
Au hasard, vous, puisque vous êtes là de la comédie française, Molière s'amuse avec les mots, mais aussi avec les mets. On le disait tout à l'heure qu'il avait vu les cuisines du roi, ça l'a inspiré dans ses œuvres, et il en est question dans les Femmes savantes, il me semble.
Non mais ce que je trouve absolument génial chez Molière, c'est que là, pour le coup, il allie les deux, c'est-à-dire le poète et la gastronomie. Le cuisinier, en fait, ne font qu'un. C'est-à-dire que le cuisinier et le poète, finalement, régalent de la même manière, à savoir l'un par le ventre, effectivement, par la bouche, et l'autre par l'intellect. Et ça, c'est génial parce que, par exemple, effectivement, dans Les Femmes savantes, il fait dire à Trissotin, suite à Philaminte qui lui demande comme ça « Servez-vous promptement votre aimable repas ?» Et donc, il va le faire par les mots, en lui disant, par une espèce de métaphore, pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de chose. Et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, dont on parlera peut-être tout à
absolument.
L'heure, ou bien au madrigal, le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût.
C'est beau,
c'est
voilà.
Formidable.
Les mets et les mots, comme vous dites, voilà, il nous nourrit effectivement de poésie et de mets. Alors, vous parliez de l'épigramme. On en parle souvent ici de l'épigramme. C'est un morceau bon marché de l'agneau qui est dans le prolongement des poitrines. Tiens, il fait beau, là, on peut faire des barbecues. C'est un morceau excellent à faire griller au barbecue. Mais c'était d'abord, Jérôme Pouly, une forme de poème. C'est parti d'un malentendu, cette histoire.
C'est un poème satirique à la base qui manque pas de piquant. D'ailleurs, l'un des des plus beaux épigrammes, certainement, vient de Voltaire, qui dit « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui mourra. » Voilà, donc ça, ça fait partie de l'épigramme. Et alors moi, j'ai une très belle histoire par rapport à ça. C'est qu'un jour, je vais chez mon boucher et je vois ce morceau-là, où il y avait marqué épigramme, assaisonné comme ça, avec des petites échalotes. Voilà, mariné, exactement. Merci Yves. Et là, un vrai bonheur, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne connaissais pas du tout. Et il me dit, ah ben, c'est un épigramme. Enfin, normalement, on dit une épigramme, d'ailleurs.
Oui, exact, oui.
Et là, mon boucher poète et littérateur se met à m'expliquer l'histoire. Et donc, je me suis permis de la faire en petite note pour pas brouiller
toutes
les...
Ça nous intéresse parce qu'il y a une origine poétique.
Exactement. Alors donc, en l'occurrence, ça se passe au 19e. Une jeune marquise qui recevait chez elle une nombreuse compagnie d'officiers lui racontèrent qu'ils avaient dîné la veille chez le comte et de je ne sais plus qui, et qu'il les avait en outre régalés d'excellents épigrammes. Alors là-dessus, la marquise appelle son cuisinier et lui demande, devant tout son monde, qu'il lui faut pour demain, au dîner, un plat d'épigrammes. Là, le pauvre cuisinier, qui n'avait jamais entendu parler de ce plat dans les annales de la cuisine, fait des recherches, s'informe. La journée se passa, ainsi que la nuit, et ce ne fut que le matin qu'il trouva la solution en se rappelant qu'il avait des côtelettes d'agneau à servir au dîner. Alors là, il braisa les morceaux de poitrine et le problème fut résolu. Au dîner, évidemment, se trouvait une partie des officiers de la veille. Le cuisinier, en présentant les mets aux convives, qui lui demandaient ce qu'il servait, répondit avec un sang-froid implacable, « Épigramme d'agneau à la Michelet ». Alors évidemment, tout le monde rit du quiproquo, et voilà comment une charmante marquise, alliée d'un cuisinier habile, se sont fait tous deux les inventeurs d'un mets nouveau. Mais peut-être pas tant inventeur que cela, parce que pour la première fois, une recette d'épigramme est apparue dans le livre du cuisinier François, de Monsieur de Varennes, en 1665, et qui était un jarret de veau qui, cependant, n'avait rien à voir avec la recette d'agneau qu'on connaît aujourd'hui.
Magnifique, voilà. Très belle histoire et très bien racontée par Jérôme Pouli de la Comédie Française. On peut aller vous voir et vous applaudir dans l'Avare. Et puis, vous êtes en tournée avec votre pièce La Cuisine des Auteurs.
Ah, j'adore. Ah,
on en a parlé. Alors, c'est génial parce qu'il part sur les routes avec un food truck et il fait à manger, enfin, et le spectacle.
C'est une caravane que j'ai transformée en cuisine.
C'est ça ?
Et je cuisine uniquement que les produits locaux dans la région dans laquelle je me trouve. Et en parlant à travers la par la littérature et les grands auteurs de la gastronomie.
Et ben vous serez le 7 mai au Broc dans les Alpes-Maritimes, le 21 mai à Pauillac, ben l'agneau de Pauillac, il faudra prendre de l'épigramme là-bas, le 22 mai au Porges en Gironde et à Grignol le 31 mai en Dordogne.
Exactement. Mais... Et puis très exceptionnellement à Paris,
à la Monnaie de Paris. À la Monnaie de Paris, 24 et 25 juin.
Exactement, voire peut-être 26 si jamais.
Prolongation.
Voilà. Mais vous êtes les bienvenus.
Ben on viendra avec l'épigramme.
Voilà.
Ouais.
On va venir vous voir, vraiment.
N'hésitez pas.
Merci d'être venu à la table des bons vivants, Jérôme Pouli.
Merci
Valérie Duclos.
Merci,
donc, on prolonge le plaisir de la table avec vous et Molière dans votre livre paru aux éditions de La Falaise, À table avec Molière.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.